Chers auditeurs, chères auditrices, il nous faut revenir un instant sur Zénon de Kition, dont la disparition au lendemain même de la capitulation d'Athènes est comme le symbole du changement qui s'opéra en 261 à plusieurs niveaux de la vie politique et culturelle. Car si le roi Antigone Gonatas était finalement parvenu à établir sa domination sur cette ville qui lui avait si longtemps résisté, son succès fut quelque peu assombri par la mort de Zénon, puisque ce philosophe, que l'on peut bien qualifier d'athénien, en dépit de son origine étrangère, voire non hellénique, avait été pour lui plus qu'un des deux ou trois maîtres à penser de ses jeunes années. Une sorte de référence morale et même politique, le fondateur de l'école stoïcienne ne répugnant pas, à la différence d'autres philosophes de ce temps, à correspondre par lettre avec le roi, laissant d'ailleurs au nombre de ses écrits un traité sur la royauté, Peribasileias, forme de gouvernement que Zénon, à la différence d'autres là encore, ne regardait pas comme illégitime, sous certaines réserves, bien entendu. Plusieurs de ses disciples, au surplus, et à commencer par son compatriote Persaios de Kition, avait entretenu des relations extrêmement étroites avec le roi Antigone, Persaios lui-même faisant une brillante carrière politico-militaire au service de ce roi. Il n'est donc nullement invraisemblable qu'au moment de la mort de Zénon, Antigone ait pu dire qu'il avait perdu avec lui, vous en souvenez peut-être, un théâtre, Oion Theatron Apollolekos, à condition toutefois de bien entendre la véritable signification de ce mot qui est faussement limpide. Théâtron, non pas un lieu où lui, le roi, aurait pu être vu et écouté du philosophe, mais tout au contraire, un endroit d'où, grâce à l'enseignement de Zénon, il pouvait mieux voir, regarder plus loin, une espèce d'observatoire en somme, sur le monde et sur les hommes. Cet attachement d'Antigone pour Zénon se manifeste également, quoique de façon indirecte, dans le décret voté par les Athéniens en l'honneur du philosophe défunt, puisque le promoteur du psephisma, Trazon, fils de Trazon, d'un Achaïen, était sinon un agent, du moins un familier du roi de Macédoine. Et ceci qui explique que ce décret, dont on doit la connaissance à la tradition littéraire représentée par Diogène Laërce, soit si particulier en son contenu, qu'il s'agisse des considérants, évitant toute allusion à la conjoncture politique, toute mention aussi des dons faits par Zénon lors de souscription publique, ou qu'il s'agisse de la décision de faire exposer deux stèles, l'une à l'Académie, l'autre au lycée, en deux endroits tout à fait insolites par rapport aux habitudes de la cité. Mais il n'y a pas là, je crois, on l'a vu en séminaire, matière à contester l'authenticité fondamentale de ce document, dont, selon un récent critique et autorisé, seul le début, le préambule, qui est si détaillé, la fin remarquable aussi d'une liste de commissaires préposés à la construction du tombeau, serait conforme au décret voté très précisément par l'Ecclésia le 21 du mois de Maimacterion, de l'année d'Areinaïdès, soit vers décembre 261 avant Jésus-Christ, 6 mois environ après la capitulation survenue sous l'Archonta d'Antipatros. Pour l'historien, l'un des intérêts majeurs du décret pour Zénon, en dehors de toute considération philosophique, réside dans le fait qu'il atteste le maintien des institutions démocratiques à Athènes en dépit des mesures coercitives prises au lendemain de la prise de l'entrée des troupes royales dans la ville. Certes, ce décret ne fait nulle mention explicite de la boulet, mais l'existence du Conseil des 600 à cette date ne saurait être mise en doute, puisqu'elle ressort déjà du fonctionnement, on le voit au début du décret, de l'année britannique, ce décret ayant été mis aux voix par l'épistat des Proèdres, alors que les 50 bouleutes de la tribu Acamantis occupaient à cette date la cinquième place dans la rotation annuelle des 12 tribus. Au surplus, d'autres décrets datables des années immédiatement consécutives à la mise d'Athènes sous tutelle confirment cette conclusion. Ainsi, un décret de la garnison d'Éleusis, numéro 184 dans le nouveau recueil, vers 258, loue un trésorier des fonds militaires, Tamias ton Stratioticon, d'assumer sa magistrature conformément aux lois et aux décrets du conseil et du peuple. Akolutos, toiste nomois, kai toiste boules, kai tu demu psephismasi. Ce document, du même coup, prouve la pérennité de certaines magistratures au moins, outre celle de l'Arconta éponyme, de ses collègues au sein du très ancien collège des Archontes. Le cas des stratèges est un peu différent, il conviendra de l'examiner à part, en relation avec le mode de désignation des magistrats à compétences militaires. Point crucial, évidemment, pour juger de la nature du régime mis en place en 261. Un changement important concernerait l'administration civile, dans la mesure où la haute instance à qui était confié le contrôle des finances publiques serait passée, après la capitulation, d'un collège de magistrats d'un collège donc à plusieurs têtes, à un préposé tout à fait unique, seul, au epitei dioikesei. De fait, avant 261, c'est normalement au pluriel qu'apparaissent dans les documents ce collège, cette magistrature financière. Ainsi, dans un décret datant de Nicias III, c'est-à-dire bien daté de 266-5. En revanche, aussitôt après la guerre de Crémonides, puisque tel est déjà le cas dans le décret pour Zénon, ce collège aurait fait donc place à un magistrat unique, jouissant par conséquent, à lui seul, de tout le pouvoir réparti jusque-là entre 6 ou même 12 citoyens. On aurait donc là le signe le plus tangible, le plus incontestable, de la réforme des institutions, dans un sens qui n'est pas démocratique, imposé par Antigone Gonatas. Cette opinion était partagée par tous les historiens d'Athènes, depuis Ferguson de 1911 à Christian Habicht, dans une nouvelle série d'études parues en 1982. Et elle est aujourd'hui encore largement répandue. Mais voilà qu'en 1983 est apparu un beau décret, trouvé pratiquement in situ au pied de l'Acropole, dans le sanctuaire d'une vieille divinité, Aglaoros, dont il permettait du même coup de localiser l'emplacement de façon tout à fait exacte, est venu montrer que le collège, au pluriel, des oi, ici tous, à l'accusatif, epitei dioikesei, était en place à ce moment-là. Or, sous l'archonta de Polyeuctos, lequel, même si on en a beaucoup discuté, doit dater de 247, donc en plein dans la domination, sous la domination macédonienne. Face à cette donnée nouvelle, deux attitudes ont été possibles. Pour certains, il s'agirait d'un retour en arrière qui, au lieu de se produire seulement en 229, avec la libération de la ville, aurait pu être effectué après 255 déjà, quand le roi, on va le voir, accorda aux Athéniens une plus grande autonomie. Mais cette position est difficile à tenir, puisque l'on trouve des mentions de la magistrature unique tout au long des années 240 et 230. Pour d'autres épigraphistes, en revanche, l'alternance entre le singulier et le pluriel, dans cette formule, n'aurait pas de signification politique, elle serait fonction des circonstances ou même seulement du hasard, la même magistrature pouvant être désignée tantôt par l'ensemble du collège, tantôt par son seul président. Et personnellement, je pense que c'est bien la solution qui s'impose. Tout au plus, peut-on admettre que, selon les moments, il y eut tendance à privilégier l'une des deux formulations de préférence à l'autre. Mais on n'a pas encore su tirer, me semble-t-il, toutes les conséquences de cette nouvelle façon d'appréhender les choses, car, théoriquement au moins, des décrets datés depuis toujours de la période d'occupation macédonienne sur la foi notamment de la formule en question, « o epi tei diokesei », pourrait en réalité dater d'une période pleinement démocratique. Cela est vrai en particulier d'un document essentiel que l'on s'accorde, ou plutôt, dirais-je, que l'on s'obstine, à, et à cause de cela notamment, pas seulement à cause de cela, à dater seulement vers le début des années 250, disons plus précisément aux alentours de 258, c'est le fameux, déjà souvent allégué, décret pour Phaedros de Sphetos, ce frère de Callias, qui, lui, fut honoré à coup sûr dès 261, c'est-à-dire avant même la guerre de Crémonides. Or, la semaine dernière, j'ai montré qu'il y avait aujourd'hui de fort bonnes raisons à faire valoir dans le sillage du spécialiste qu'est Michael Osborne, qui toutefois a répugné à réellement abandonner la datation traditionnelle pour placer ce document dont la tonalité démocratique ne saurait être méconnue, sans parler de la mention qui y est faite, chose tout de même remarquable, du premier Ptolémée, nom qui était en principe Oni sous Antigone Gonatas, donc de le placer au début de l'année 262, quand Athènes non seulement était encore libre, mais qu'elle pouvait à nouveau envisager, grâce à une paix conclue avec le roi, paix certes trompeuse, qu'elle pouvait donc envisager un avenir et avec une certaine confiance. Tout cela était encore une fois peu durable, mais personne, évidemment, ne pouvait le deviner alors. En tout cas, il sera prudent, jusqu'à nouvel ordre, de ne rien vouloir inférer des procédures mises en œuvre dans ce beau document, y compris un amendement à la fin, tamenala, etc., un amendement qui est parfaitement dans la tradition, dans la meilleure tradition démocratique, pour essayer de caractériser la situation politique d'Athènes après 261 et jusqu'en 255, date correspondant, je l'ai dit, sinon au retour à une véritable Eleutheria, certainement pas, du moins à un allègement de l'ingérence et de la présence macédonienne. Telle est la perspective où il convient d'examiner un instant le cas des stratèges. Car c'est là, dans le domaine militaire, que l'on pourrait admettre le plus aisément et comme a priori, si l'on veut, une volonté royale de contrôler le fonctionnement des institutions athéniennes. De fait, dès 1982, Habicht émettait à ce propos une hypothèse fort intéressante, hypothèse selon laquelle la plus importante des charges confiées jusque-là aux stratèges, celle du stratégos épita Hopla, stratégie des armements ou stratégie générale, aurait été supprimée sur ordre d'Antigone en 261, le roi s'arrogeant en quelque sorte le commandement suprême de l'armée athénienne en campagne, otan exiosin, comme l'écrit déjà l'Athénaïon Politeia aristotélicienne. Habicht tirait cette conclusion de l'absence de toute mention de ce stratégos epita hopla dans la période 261-229, date donc de la libération. Une fois écarté, un faux témoin, notamment. Mais il restait un témoignage plus embarrassant, une liste de magistrats, amputés, certes, mais intéressante néanmoins, qui mentionne, vous le voyez à coup sûr, qui mentionne le stratégos Epitaopla, poste occupé à ce moment-là par Eurycleides de Kyphysia, personnage considérable, frère de Mycion d'ailleurs, qui est là juste avant, et qui était destiné à devenir, après la libération de 229, l'homme politique athénien le plus en vue aux côtés de son frère, justement. Ne fallait-il pas alors abaisser jusqu'à 229, ou plutôt, ce catalogue de magistrats. Depuis cependant, comme il l'a fait savoir dans Athènes hellénistique, dans l'édition française de 2000-2006, Savant s'est laissé convaincre par son très proche collègue Stephen Tracy que cette inscription, sur la base d'une attribution à un graveur déterminé, devait bel et bien se placer vers 240 et qu'elle demeurait ainsi un témoin incontestable, irrécusable, de l'existence du stratège des hoplites après 261, ou du moins après 255. Conclusion qui a été adoptée aussi par Graham Oliver, comme le montre cet utile tableau tiré de sa thèse de 2007, où il apparaît, ce stratège apparaît en bonne place aux alentours de 240. L'affaire paraît donc entendue, d'autant plus que un décret inédit de l'Agora, où ce même Eurycleides est honoré en tant que stratégos Epitaopla, précisément, par le corps des soldats d'élite, des épilectoi, peut elle aussi, de l'avis de Tracé, être placée encore juste avant 229, bien que le graveur à qui cette inscription doit être attribuée n'ait apparemment travaillé, lui, que de 229 à 203. Cette chronologie un peu trop serrée m'inspirait, je le confesse, quelques doutes, et j'ai demandé à Christian Habicht si tout cela lui paraissait vraiment bien établi. Avec son obligeance coutumière, il m'a répondu, voici deux jours, qu'en compagnie de son ami Stephen Tracy, il avait examiné un estampage conservé à Princeton et qu'une chose lui avait frappé, les avait frappés tous les deux, c'est qu'il y avait des traces de martelage, ce qui est la preuve qu'on avait dû vouloir, en l'an 200 avant Jésus-Christ, faire disparaître des mentions de rois ou des choses liées à la royauté. Et c'est des cas, donc il y a bien des exemples, on en avait vu un, dans les documents du IIIe siècle. C'est donc un indice très fort, peut-être une preuve absolue, que l'inscription date bien encore de l'époque de la domination royale. Conclusion corroborée par le fait que le promoteur même de ce décret inédit, Thumorios de Ionimon, est attesté parmi les notables athéniens de l'année 247 déjà. J'ai donc eu tort, pour un instant, de penser que Habicht avait peut-être renoncé trop vite à sa première hypothèse. En fait, il a raison d'admettre qu'il avait tort. Il y a ainsi de fortes chances pour que même le collège des stratèges n'ait pas été affecté dans ses tâches essentielles par la capitulation de 261, alors que tout fut remis en place dès 256. C'est donc une autre solution, où rien n'a changé, où tout a été remis en place en 255. Mais si Antigone paraît avoir ainsi voulu toucher le moins possible aux structures existantes, à la fois par pragmatisme, sans doute, et dans le souci peut-être de ne pas humilier inutilement les vaincus, il ne fait pas de doute, en revanche, qu'il intervint au début dans la désignation des magistrats, non pas assurément tous les magistrats, car il lui importait peu que les archontes sans pouvoir réel, l'archonte éponyme en particulier, fussent tirés au sort ou désignés souverainement par le peuple. Mais ceux qui exerçaient une haute autorité militaire, essentiellement les stratèges. À cet égard, on dispose depuis 1924 d'un intérêt sans décret de Ramnon, dont je vous montre le texte plus tôt, qui avait fait connaître l'archéologue français Fernand Chapoutier, et repris sous le numéro 8 du recueil de Petrakos. Il s'agit d'un décret des isotèles, c'est-à-dire d'une catégorie de mercenaires étrangers ayant obtenu un statut fiscal identique à celui des citoyens, pour le stratège Apollodoros du dème d'Autrunet. Or, celui-ci avait été, on le voit, à la fois nommé stratège par Antigone, catastateis hypotou basileos Antigonou, et régulièrement élu par le peuple au poste de stratège du pays côtier, kai hypotou demou keirotoneteis strategos. Dans un autre décret de Ramnon, venu au jour il y a une vingtaine d'années seulement, et émanant, lui, des citoyens en service dans la garnison, c'est le numéro 10 du recueil, rien n'est dit d'une désignation royale précédant l'élection populaire. Cette différence ne saurait être fortuite, je pense. Dès lors, seule la chronologie, autrement dit l'histoire, peut en rendre compte. De fait, même si le décret des isotèles, celui que l'on vient de voir, ne peut plus être daté aussi précisément qu'on croyait pouvoir le faire en introduisant ici dans la lacune, vous voyez, à la ligne 9, le nom de l'archonte Euboulos, car cet archonte Euboulos, aujourd'hui, semble devoir être placé avant la capitulation de 261, ce qui exclut évidemment sa présence ici. Ce document, disais-je, appartient très vraisemblablement aux premières années de l'occupation. En effet, on pourrait y restituer, désormais, c'est une simple hypothèse, le nom d'un archonte apparu seulement en 2007, ce qui est plutôt rare, de nouveaux archontes. Un archonte apparu en 2007 sous une forme incomplète, un archonte Zinos, peut-être Ctesinos, qui conviendrait en tout cas à la courte lacune et à la date proposée pour lui aux alentours de 260. Vous voyez, des archontes, il en apparaît encore de temps en temps, c'est plutôt rare. L'autre décret, en revanche, est sûrement de l'archontat de Calimédès. Le voici, donc... je le reproduis une nouvelle fois, et cet archonte de Calimédès, date assez sûrement de l'année 253, non pas 248 comme il est dit ici, 253-2. Donc, quelque chose d'important a dû se produire dans ce bref intervalle, 260-253, quant au mode de désignation des stratèges. Et l'hypothèse émise par Chapoutier déjà demeure la plus séduisante, qui voyait dans ce renoncement du roi à s'ingérer dans la procédure de désignation des stratèges une conséquence de la désignation de la décision d'Antigone en 256 ou 255 de donner, ou mieux, de redonner la liberté aux Athéniens. Athénaios Antigonos ten eleuterian edoken. Le fait qu'une information de cette importance ne nous soit connue que par le biais d'une chronique du IIIe siècle de notre ère, la célèbre, certes, chronique d'Eusèbe, témoigne assez crûment de l'état de délabrement des sources historiographiques, presque toutes entièrement disparues, pour ce milieu du IIIe siècle avant Jésus-Christ, période obscure entre toutes. Mais de ce naufrage a survécu tout de même une autre petite épave recueillie dans la Périégèse de Pausanias, qui achève son excursus du livre 3 que vous aviez eu dans un dossier précédent sur la guerre de Crémonides, en relevant qu'Antigone, après un certain temps, Anachronon, fit sortir de plein gré la garnison qui avait été imposée à la cité vaincue. ecusios exegagen ten fruran. Sur ce muséion, sa présence, qui devait être très, très vexatoire pour l'amour-propre athénien. Les deux mesures paraissent étroitement complémentaires l'une de l'autre. Le départ d'une garnison étant toujours ressenti dans une cité hellénistique comme l'aube d'une ère de liberté. Il y a des exemples tout à fait clairs où ces deux volets sont extrêmement associés. Comment expliquer le geste du roi vers 255 ? Est-ce parce que les Athéniens avaient fait preuve de loyauté à son égard, invoquant les dieux au début de chacune des réunions de l'Ecclésia pour la santé du roi Antigone, sans oublier Madame la reine Phila et messieurs les princes héritiers, Hupertes Ulieas, tout Basileos, Caites Basilissas, Caiton Egonon, phrase que donne à lire main décret de l'époque macédonienne. Oui, sans doute, mais cette première phase de démilitarisation doit s'expliquer surtout par un changement d'envergure sur le plan de la géopolitique égéenne. En effet, même si la datation de l'événement ne peut pas encore être considérée comme définitivement établie, il y a de bonnes raisons pour placer vers 255 l'éclatante victoire navale d'Antigone sur Ptolémée, Ptolémée II et Vergète, au large de l'île de Kos, donc près de la côte micrasiatique. Victoire dont on a l'écho dans une anecdote parfaitement digne de foi, transmise ici encore par Diogène Laërce, livre 4, vous l'avez sous les yeux, 39. En effet, au lendemain de cette naumachia, le philosophe Arcésilas de Pitanée, scolarque de l'Académie depuis les années 260 jusqu'à sa mort en 241, aurait été l'une des rares personnalités à ne pas vouloir venir féliciter le roi à son arrivée triomphale à Athènes, en dépit des bonnes relations qu'il entretenait, par ailleurs, avec les officiers, avec Héroclès, la garnison du Pirée, etc. Mais quel rapport avec la libération de 255-4, au commencement de libération ? C'est que les Athéniens, privés désormais de tout espoir de voir le Lagide voler à leur secours, comme peu auparavant encore, ces Athéniens n'auraient plus eu besoin d'être surveillés d'aussi près, ce qui permettait sans doute à Antigone de réaliser des économies, mais laisser aussi la ville plus vulnérable, et l'avenir allait le montrer bientôt, à d'autres menaces que la menace égyptienne. Avant d'y venir, arrêtons-nous encore un instant sur ce tournant de 255 pour mettre à l'épreuve l'hypothèse du désengagement de l'autorité royale dans la désignation des magistrats militaires athéniens, en examinant rapidement deux autres décrets de Garnisaire, et à Eleusis cette fois, c'est-à-dire dans l'autre grand dème fortifié de l'Attique. Un décret pour un stratège anonyme, en 187 du recueil, daterait des alentours de 255-250, et l'on y trouverait encore l'expression « katastatei strategos », epi ten koran ep eleusinos. Mais la restitution, katastatei, mise en place, ne s'impose pas absolument. Keirotoneteis, élu, étant également possible, même sans la mention, pour laquelle il n'y a pas de place, et plus courante, du peuple qui élit, hupo tu demu. Au surplus, la date qui est bien approximative, vous le voyez, puisque le nom de l'archonte a disparu à la ligne 2, donc ce décret ne saurait constituer, si peu que ce soit, une objection à l'opinion défendue ici sur le mode de désignation qui a donc changé probablement en 255 après 255. Plus problématique, s'est révélé être un décret assez mal conservé, dont vous le verrez dans un instant, le bénéficiaire n'a pu être identifié que fort récemment. Ce décret des citoyens stationnés à Eleusis et dans les forteresses du Montparnasse, qui en dépendaient, Panacton, Philae, fut voté en l'honneur d'un certain Démétrios, seule partie de son nom qui soit conservée, et qui, à en croire une restitution que vous avez sous les yeux du grand épigraphiste autrichien Adolf Wilhelm en 1925, aurait été mis en place comme stratège, sans spécification, par le roi Antigone, tout simplement par Antigone, Hupo Antigonou. Et cela sous l'archontat d'Antimachos, vers 255. Puis, ce même personnage aurait été élu démocratiquement, Keirotonetech, au poste d'hipparque, donc de commandant de la cavalerie, avant d'être désigné dans la suite, on peut le voir maintenant, élu dans les années suivantes au titre de stratège de la région d'Eleusis. On aurait donc affaire à un magistrat ayant vécu à l'époque de transition, en quelque sorte, entre les deux types de désignation. En réalité, comme l'a montré ici encore Habicht en 1982, mais donc un demi-siècle plus tard, ce Démétrios, avant d'accéder à l'hiparchie, commandant de cavalerie, avait dû très normalement être placé catastatès, il ne s'agissait pas proprement de l'élection, à la tête d'un escadron de cavalerie au titre de Phylarchos. Phylarch, c'est l'un des 12 commandants d'escadron. Et puis seulement, alors, accéder plus tard, par deux fois, à la stratégie vers la fin des années 250. Il n'y avait dès lors plus aucune raison de vouloir introduire le nom du roi Antigone à la ligne 5. D'autre part, comme Démétrios avait eu manifestement une longue carrière politique, accomplissant avec zèle toutes les liturgies et les magistratures qui sont globalement indiquées au début, vous voyez, Kai Eis, Ossas, Leiturgias, Kai Arkas, Kekoretoneken, une identification s'est imposée qui paraît effectivement très attractive. Ce Démétrios ne serait autre que le petit-fils du fameux Démétrios de Phalère, le philosophe président d'Athènes entre 317 et 307. De fait, depuis 1994, on en sait beaucoup plus sur ce personnage car Stephen Tracy a prouvé de manière là totalement indiscutable qu'une base de statut d'Eleusis aussi est connue depuis le milieu du XIXe siècle par des voyageurs, honore en réalité le personnage en question, le petit-fils, et non pas du tout, comme on l'a cru pendant 150 ans, l'autoritaire législateur de l'époque du roi Cassandre, ce Démétrios de Phalère, qui était certes doté de toutes sortes d'aptitudes, mais ne s'illustra jamais dans le métier des armes. Or, c'est une carrière essentiellement militaire que ce Démétrios II fit dans les garnisons de l'Attique, au témoignage tant de cette base que d'Eleusis. En revanche, il faut rappeler ici, l'idée de Habicht n'est plus tenable, et comme celui-ci l'a reconnu tout le premier immédiatement, de faire de ce Démétrios II un gouverneur à qui Antigone, vainqueur en 261, aurait confié l'autorité suprême sur Athènes. La chronologie l'interdit absolument, et on a vu qu'en réalité, on pouvait fort bien se passer de ce prétendu intermédiaire entre le roi de Macédoine et la démocratie athénienne, placée sous son rigoureux contrôle. Un dernier point mérite d'être soulevé dans ce faisceau de questions et aussi de solutions relatives au statut de la cité après 261. Athènes perdit-elle alors le privilège de frapper monnaie ? Elle, dont les chouettes Ces drachmes, et surtout tétradrachmes d'argent portant au revers l'oiseau nocturne d'Athéna, furent au IVe siècle, et redevinrent d'ailleurs au début du IIe siècle, un numéraire international partout prisé et recherché. La question est depuis longtemps débattue, et je ne veux pas entrer ici dans le détail de la discussion technique menée par les spécialistes. Mais comme l'étude des monnaies est une chose trop importante pour être laissée au seul numismate, il me paraît opportun d'indiquer au moins où l'on en est aujourd'hui là-dessus, en alléguant aussi un texte trop souvent négligé ou mal compris. Une chose est certaine, sur le plan monétaire, le IIIe siècle a cessé d'être pour Athènes le trou noir que dépeignaient les anciens manuels qui enseignaient que les Athéniens avaient pratiquement cessé, durant toute cette époque, dominée par la Macédoine, de frapper leur propre monnaie, emblème d'une indépendance qu'ils avaient plus ou moins complètement perdue. Cette vision, par trop simpliste, n'est plus de mise. Certes, on lit encore bien souvent, même sous la plume de numismates les plus autorisés, qu'en 295 avant Jésus-Christ, donc suite à la conquête de Démétrios Poliorcète, l'atelier d'Athènes avait, sinon fermé ses portes, du moins arrêté la frappe des chouettes anciennes. Cette phrase un peu sibylline se lit dans un article du Journal des Savants paru en 2010. Qu'est-ce à dire ? Eh bien, qu'il n'y aurait plus eu, après la date fatidique de 295, que des émissions de faible volume, marquées toujours, cependant, par la présence d'une chouette, mais qui serait apparemment bien différente de ses congénères du IVe siècle, et cela jusqu'à une date qui se situe aux alentours de 180-170, quand Athènes, alors, décida de reprendre, c'est la monnaie de gauche, la frappe de ce que les numismates appellent traditionnellement l'argent du nouveau style, qui s'appelait en réalité, comme le démontra Louis Robert en 1951, l'argent attique Stéphanéphore, Argurion Attikon Stéphanéphoron, bien qu'il fût toujours, lui aussi, d'une certaine façon, Glaucophoron, puisqu'il avait toujours, était toujours porteur de chouettes au revers. Car s'il se distinguait fondamentalement du précédent, c'était seulement par l'apparition d'une couronne, l'apparition d'une couronne au revers, justement. Autrement dit, pour les anciens, il n'y eut de changement perceptible qu'à ce moment-là. Eux-mêmes ne faisaient pas de différence entre des chouettes qualifiées d'anciennes par les numismates actuels et des émissions dites intermédiaires, désignées sous le nom assez peu explicite de monnaie de style quadridigité, ou par des émissions postérieures encore, sous celui, peut-être moins valorisant encore, de groupes hétérogènes comme cette monnaie. Car enfin, ces appellations techniques et savante masque le fait essentiel, à savoir que ce sont des drachmes et des tétradrachmes d'argent au type traditionnel, frappés toujours selon le même étalon, en un mot des chouettes, qu'il faut bien dénommer ainsi, comme un chat doit être appelé un chat. Ce qui me semble certain en tout cas, c'est que les usagers eux-mêmes, dans la première moitié du IIIe siècle au moins, donc avant la guerre de Crémonides, regardaient la monnaie athénienne comme égale à elle-même, et ne la dédaignait point au profit d'autres numéraires en circulation. Cela est prouvé en effet par une anecdote que rapporte Diogène Laërce dans sa vie de Zénon, de nouveau, livre 7, chapitre 18, vous avez le dossier en main. Anecdote qu'il rapporte juste après une autre que je ne commenterai pas, mais où il est amusant de constater l'existence d'un lien amoureux entre cet austère philosophe et le jeune homme bien-né qui allait donner son nom à une guerre, la guerre de Crémonides. Anecdote donc, je crois avoir montré, je ne parle ici que de la seconde, qu'elle avait toute chance d'être authentique parce qu'elle cadrait très bien avec ce que l'on devine de la personnalité du penseur chypriote, venu à Athènes comme marchand, emporos, pointilleux à l'extrême, proche de ses sous jusqu'à l'avarice, et elle cadre au mieux également avec ce que l'on sait de l'endroit, je l'avais montré, où Zénon faisait son enseignement à Athènes, dans une stoa, un portique de l'agora, proche des tables où s'affairaient les changeurs et autres trapézitailles, et où apparaissaient, on venait, voyait se déverser des monnaies de tout pays, de toute origine, pantodapa nomismata. Dans ce cadre très spécifique, notre philosophe établissait volontiers, nous dit le biographe, une comparaison de nature monétaire qui devait être bien comprise de son auditoire, un peu comme les paraboles de Jésus parlant de drachmes perdues ou de talents confiés aux plus riches. Désireux, en effet, d'illustrer la différence à faire entre des discours brillants, mais souvent légers, donc trompeurs, de puristes, de gens habiles à disserter, et les rudes, mais ô combien plus solides enseignements dispensés par les sages, il disait que les premiers ressemblaient aux superbes monnaies d'Alexandre. Alexandreion Argurion, car c'est ainsi qu'il faut rétablir le texte, non pas l'adjectif Alexandrinon, qui n'existait pas à l'époque de Zénon, tandis que les seconds, ces seconds discours, étaient tout semblables, selon lui, aux tétradrachmes attiques, frappés n'importe comment, mais valant souvent mieux, car ayant toujours le bon poids. Notons au passage que les meilleurs manuscrits donnent la forme syncopée, non pas tétradrachma, mais tétrachma, variante fort intéressante et assurément préférable, puisque cette forme, comme le prouvent notamment les inventaires de Delos, fait précisément irruption dans la pratique, dans le vocabulaire, quotidien dans les années 280-270, c'est-à-dire à l'année, la date même où l'on peut situer avec le plus vraisemblance le bon mot de Zénon, dont Diogène devait très certainement d'ailleurs la connaissance à un écrivain contemporain plein de charme, de malice, Antigone de Charistos, qui avait pu connaître Zénon encore un peu avant le décès de ce dernier en 261. Ce qu'enseigne donc ce petit texte, sur le plan historique, c'est qu'en dépit de leur technique incertaine, hein, on les regarde encore, leur technique tout à fait incertaine, leur style incroyablement vieillot, chose qui devait sauter aux yeux des usagers les moins attentifs, quand on les comparait aux émissions royales, ou plutôt pseudo-royales, contemporaines, les frappes athéniennes du IIIe siècle gardaient toute leur valeur dès lors qu'on s'avisait d'en faire non seulement le compte, arithmos, mais aussi de les mettre sur une balance pour en vérifier le poids, satmos. Alors que certaines des monnaies au type d'Alexandre, les Alexandres, comme on dit, Alexandre posthume, ces pièces émises par quantité d'états de Grèce et surtout d'Asie mineure ne pesaient pas toujours le bon poids, du moins sous l'œil exercé du marchand, ou l'ancien marchand philosophe Zénon de Kition. La question de savoir si ces maladroites émissions de tétrachma attica furent interrompues, comme on l'admet volontiers, souvent mais sans preuve, au moment de la capitulation d'Athènes en 261, finalement peut-être secondaire, car à supposer que ce fut bien et bien le cas, il est très douteux que l'interruption ait été imposée par le roi vainqueur, dont on a vu combien, en fin de compte, il intervint peu dans les affaires internes de la cité. La fermeture temporaire du nomismatokopion, de l'atelier monétaire, pourrait avoir eu comme cause la situation économique de la cité à ce moment-là, en particulier le manque de métal précieux à cette date. Ce qui est sûr, c'est que la frappe de l'argent n'a pas tardé à reprendre à la fin du IIIe siècle dans ce type de monnaie, donc monnaie dite hétérogène, mais qui sont toujours au même type. Vers 250, un élément perturbateur est venu troublé la relative quiétude des Athéniens vivant en état de semi-liberté dans une Attique dont ils ne sortaient pas beaucoup, selon toute apparence. C'est seulement vers la fin des années 240 qu'on les voit recommencer à déployer une certaine activité diplomatique. Ce coup de tonnerre, dans un ciel serein, quoique un peu voilé, fut la curieuse décision prise par le neveu du roi, jusque-là serviteur loyal de son oncle, comme l'avait été des années durant son propre père Cratéros, sorte de vice-roi installé à Corinthe, de vouloir, dans un premier temps au moins, se tailler un domaine personnel. Cette défection ou révolte d'Alexandre, fils de Cratère, se produisit à une date longtemps disputée, comme sont incertains tous les événements de ce milieu du IIIe siècle, mais qu'il est possible aujourd'hui de situer assez exactement en 251. C'est du moins la date que j'ai défendue naguère en reprenant la question à l'occasion de la publication d'un intéressant petit décret d'Érétrie qui, selon toute apparence, vous l'avez dans votre dossier, nous fait connaître le personnage d'Alexandre avant même qu'il ne prît ses distances vis-à-vis d'Antigone Gonatas, quand il n'était encore, disons vers 260-255, que le lieutenant général du royaume, ayant en particulier la haute main sur les affaires des cités de l'Eubée, c'était le cœur de son domaine, avec Corinthe. Ces cités qui étaient sujettes d'Antigone et dont le statut rigoureux n'avait pas bougé depuis la fin des années 260, quand le vieux philosophe Ménédème d'Érétrie, usant de tout son prestige auprès du roi Apella, avait essayé, mais en vain, d'obtenir le rétablissement, l'apocatastasis de la démocratie dans sa patrie, se heurtant à l'opposition de certains conseillers. Connu depuis bien plus longtemps, un autre décret d'Érétrie, qui est également dans le dossier, honore en effet cet Alexandre, alors plus tard, en lui accordant le titre de roi. Et ce qui paraît confirmé par une notice tardive qu'on a sur cette prétention d'Alexandre à être un basileus. Les autres sources, en revanche, ne l'appellent jamais qu'Alexandre, ce qui ne surprend pas, d'autant plus qu'elles sont, ou d'autant moins qu'elles sont fort peu nombreuses. Il n'y a guère que Troque Pompée, l'historien latin, qui parle de sa défection, de ses débuts, aussi Plutarque dans la vie d'Aratos de Sicyone, car les débuts de ce grand patriote achéen, qui Polybe, rappelons-le, voyez le véritable fondateur de la Confédération achéenne. Les débuts d'Aratos, disais-je, avaient été inextricablement mêlés aux vicissitudes provoquées par l'ancien gouverneur et désormais rebelle Alexandre de Corinthe ou d'Eubée. Les informations les plus précises, toutefois, sur les dangers que ce personnage fit courir à ses voisins, nous viennent de l'épigraphie attique. Ce qui est un peu paradoxal, mais seulement en apparence, puisque les Athéniens, qu'ils le voulussent ou non, devaient prendre parti contre ce rival inopiné du roi Antigone, leur maître. Aucune de ces inscriptions n'est sûrement antérieure à 250, car il me paraît jusqu'à nouvel avis un peu téméraire de mettre en relation avec la révolte d'Alexandre des documents qui, vers 255 déjà, mais sans la moindre mention, document où on paraît avoir fait appel à la générosité civique des Athéniens. En tout cas, rien n'invite. À dater avant 250, le beau décret, souvent reproduit, commenté, vous avez dans votre dossier également, qui émane de la communauté des gens de Salamine, c'est une île toute proche, justement, de la région isthmique, qui est par là directement menacée, pour l'Athénien Héracléitos d'Atmonon. On se souvient peut-être que ce personnage était le bénéficiaire du décret faisant mention des fameuses peintures, ou plutôt chroniques, relatives à la victoire du roi Alijimakeya en 277, document longtemps placé à tort au lendemain de cette bataille mémorable, alors qu'il ne saurait en réalité dater que du milieu du IIIe siècle, exactement comme décret des Salaminiens. Au témoignage de ce dernier, Héracléitos eut un rôle tout à fait important comme stratège à la surveillance du Pirée, d'autres places qui en dépendaient, expression où il faut se garder alors de voir un exemple d'ingérence d'Antigone dans la désignation des hauts magistrats athéniens, car ce katestékos hypotou basileos strategos, epitou peireios, n'était assurément pas un magistrat athénien, quoiqu'il fût lui-même citoyen athénien, mais un officier dépendant entièrement du roi. Et le décret montre bien que, d'une manière générale, on lui reconnaissait le mérite d'user de son influence auprès du souverain en tant que, en quelque sorte, intercesseur de ceux qui avaient à lui adresser une requête. Enfin, joliment l'inscription, que personne ne dut repartir les mains vides, à Praktos, sans avoir rien pu obtenir. Les principaux services rendus par Héracléitos eurent toutefois pour cadre une guerre, celle qui était survenue contre Alexandre, Polemou Genomenou tout pros Alexandron, quand Salamine fut la cible d'une incursion de pirates partie d'un port de la Corinthie ou de la Mégaride en face, disposant certainement d'une flottille, préposée à la surveillance du Pirée, veilla à ce que le pire fût être évité, qu'un prisonnier fût rapidement libéré. C'est une touche colorée, très précieuse, qui nous est ainsi apportée par ce document contemporain. Mais en même temps, il nous laisse sur notre faim, puisque son auteur ne prétend nullement faire œuvre d'historien, n'éprouvant donc nul besoin de nous dire ce que cherchait à faire ces pirates, ou ce que l'on avait peut-être intérêt à désigner comme tels, ou leur probable commanditaire, ce neveu du roi Antigone, qui, par l'étroitesse même de ses liens avec le souverain, était un personnage pour le moins encombrant, dont il valait mieux ne parler qu'à demi-mot. De fait, c'est la même discrétion que l'on retrouve encore dans un autre document attique de ces années-là, un décret pour le chef du gouvernement de la cité d'Argos, Aristomachos, dont on loue les bonnes dispositions à l'égard du peuple d'Athènes, surtout, je cite, « depuis qu'a éclaté la guerre commune menée par les deux cités contre Alexandre, fils de Cratère », ligne 14, « Sumbantos koinou polemou ». En fait, cet Aristomachos est un tyran. Et l'on pourrait s'étonner de voir les Athéniens faire cause commune avec un tel personnage, mais il est clair qu'ils n'ont pas le choix. Le patron de leur cité Antigonos, ayant eu pour principe politique dans le Péloponnèse de soutenir justement les gouvernements autoritaires, alors que, au contraire, Alexandre, le neveu, paraît avoir joué, lui, la carte de la démocratie en s'alliant provisoirement, au moins, avec des adversaires des tyrans, comme l'était, en tout cas, le jeune Aratos de Sicyone qui venait de libérer sa cité. Et la suite du décret exprime, en termes fort diplomatiques, qu'il fallut détourner cet Aristomachos d'Argos, pardon, de conclure une trêve séparée à moindre frais, dit Elatonon analomaton, avec Alexandre, et au terme de ces négociations, pour ne pas dire marchandage, l'excellent tyran réussit, en y mettant certes un peu du sien, mais en ne refusant pas la contribution athénienne, à conclure une paix commune aux deux cités, Konen, Erenen, Thais Polesin, Amphoterais. Autrement dit, à cette date, le rebelle Alexandre était parvenu d'une certaine manière à neutraliser deux de ses principaux adversaires, après les avoir harcelés, sans doute de diverses façons. Mais que put-il donc bien faire exactement aux Athéniens pour que ceux-ci fussent ainsi contraints de solliciter un traité de paix avec l'adversaire déclaré du roi Antigone, lequel, d'ailleurs, paraît n'avoir pas fait grand-chose pour les soutenir dans cette guerre. C'est un grand absent que le roi Antigone à ce moment-là. Un début de réponse nous vient d'un document de Ramnonte dont la trouvaille en 1993 a provoqué un petit séisme. Un petit séisme, oui, dans le milieu des spécialistes de l'histoire athénienne et plus généralement grecque. Et cela avant même qu'il ne soit publié, puisqu'à ce jour, il ne l'est toujours pas. C'est que l'inventeur de ce nouveau décret, Vassili Petrakos, eut à cœur d'en faire connaître aussitôt le contenu, disons de façon résumée, en ces grandes lignes, indiquant en particulier le nom du personnage honoré, Archandros, fils de Kallippos d'Éleusis, et qui n'était pas un inconnu, à Ramnonte même, son père n'étant autre, au surplus, que le chef des forces athéniennes, 30 ans plus tôt, contre les fameux Galates aux Thermopyles, Kallippos. Et le principal mérite de son fils, de cet Archandros, aux yeux en tout cas de ceux qui l'honoraient par ce décret, donc les gens de Ramnonte, était de leur être venu en aide dans une période extrêmement critique, parvenant à assurer le salut de la Ramnousia, expression nouvelle pour désigner le territoire de Ramnonte, alors que la guerre sévissait, que la famine, ou si en tout cas la disette, était fort présente dans la forteresse, et que plus précisément, le pays, ou le reste du pays, était plein de pirates. Il y a une expression extraordinaire, Megisteskoras, Megistes Peiraton, qui était faite pour attirer l'attention. Or, l'année durant laquelle ce stratège de la Paralia, de la côte, exerça ses fonctions avec tant d'efficacité, était au témoignage du décret, et comme le relevait dès alors Petrakos, celle de l'archonte Diomédon. La belle affaire, me direz-vous. Mais voilà, que ce Diomédon n'était pas, lui non plus, un inconnu, qu'il était lié à une demi-douzaine d'archontes éponymes des années 240, et qu'il datait, Epi Diomédontos Archontos, un document d'une singulière importance, connu dès alors et bien plus tôt, à savoir la souscription par laquelle, à la veille des moissons, et pour une période de 2 mois, tous les notables et grands propriétaires athéniens, y compris d'ailleurs Archandros lui-même, que l'on voit dans la liste des, je crois que c'est vers l'année 61, ici, Archandros, hein, au milieu, il est là, d'Éleusis, revenons ici, sans parler de plusieurs étrangers aussi, y compris, chose intéressante, l'icône au philosophos, un lointain successeur d'Aristote, avait contribué de façon délibérément égalitaire au salut de la cité, la défense du territoire, expression remarquable, eisten soterian, tes poleos, kaiten fulaken, tes roas. Donc un beau document dont Graham Oliver a analysé le riche contenu en 2 appendices au moins de sa thèse d'Oxford. Cette inscription de l'Archonta de Diomédon, lequel, depuis 1978, était daté avec une relative confiance de l'année 244-3, témoignait donc d'une crise assez aiguë, d'une menace à tout le moins, où l'on était fortement enclin, avec Christian Abich notamment, dans ses Studien de 1982, mais aussi avec Léopold Mijotte dans son si utile recueil des souscriptions publiques grecques, avoir la main armée du fougueux Aratos de Sicyone, qui, de fait, en cette année 243 précisément, allait bouter hors de la Corinthe, par un coup de main d'une audace extraordinaire, la garnison d'Antigone Gonatas. Peu de temps, justement, après que cette forteresse eut été reprise à Alexandre, le rebelle, alors décédé. Mais justement, comment concilier cet épisode avec le tableau de la situation à Ramnonte que donnait le nouveau décret daté du même archonte Diomédon. Parce que l'Achéen, Aratos, n'ayant décidément pas pu alors menacer à la fois l'ouest de l'Attique par voie de terre, la côte est avec l'appui de pirates. Pétrakos vit bien que le contexte devait être différent et qu'il fallait mettre tout cela en relation, en fait, avec la révolte d'Alexandre et la guerre de course que celui mena à partir de ses bases eubéennes et ismiques. Mais alors, que devenait la datation de Diomédon en 244 ? Elle n'était plus tenable, Alexandre étant mort en 245 au plus tard. Il fallait en revenir à une date plus haute, et de fait, dès 1994, le mathématicien américain John Morgan, sur la base de savants calculs astronomiques, pouvait proposer pour Diomédon l'année 248-7, laquelle s'impose actuellement, je vais terminer, dans cette liste de 2009, par exemple, vous voyez Diomédon placé en 248-7. Ce qui est sûr, je termine par là, c'est que Diomédon est bien l'archonte du décret inédit de Ramnonte, que M. Pétrakos m'a expressément autorisé à vous montrer, ce dont je le remercie. On voit en effet que si le nom de l'archonte est en partie amputé, épi di omedontos, cette restitution, en revanche, est tout à fait sûre. Force est de constater, en vrai, qu'il n'y a pas dans ce décret la moindre mention d'Alexandre. Mais, à la réflexion, cette discrétion n'est pas tellement surprenante, compte tenu du rang et de la qualité de ce personnage, et qu'on masque. Et en tout cas, les dispositions prises par le stratège Archandros cadrent parfaitement avec l'hypothèse d'une guerre essentiellement navale. Non seulement, en effet, il se confirme que les ennemis étaient partout des pirates et non pas une armée ayant fait irruption en Attique par la voie terrestre. Cette fameuse thèse loipes coras ou ces mestes peiraton. Mais aussi que le stratège, répartissant habilement les forces dont il disposait, gardant les vétérans presbytéroi et les métèques à l'intérieur de la forteresse, confiant aux plus jeunes néotéroi le soin de surveiller le pays, faisant faire des sorties exploratoires aux paroïkoi et aux soldats professionnels, il faudra revenir un jour sur ces diverses catégories, Archandros, dis-je, réussit à assurer la sécurité des habitants, du bétail, des esclaves, en plaçant des guetteurs camouflés, de nouveaux cryptoi, dans les postes les plus convenables et à l'observation de l'ennemi, comme l'avait fait, vous en souvenez, Épicarès 20 ans plus tôt. Mais justement, alors que ce dernier n'avait pu étendre sa zone d'opération que sur 30 stades, Archandros eut un rayon d'action deux fois plus important, 60 stades, dans une bonne dizaine de kilomètres, ce qui paraît bien indiquer qu'il n'y avait pas cette fois d'armée ennemis à l'intérieur des terres. Ce conflit avec Alexandre de Corinthe, roi de Bée, fut donc très différent de celui que, sous le nom de guerre de Crémonides, les Athéniens conduisirent et perdirent une génération plus tôt. Non seulement sur le plan stratégique, comme on vient de le voir, mais au point de vue politique, puisque la guerre du début des années 240 fut pour Athènes une guerre imposée du dehors, une guerre dont l'enjeu essentiellement dynastique la dépassait, non pas une guerre nationale menée pour la défense de ses intérêts propres. Même si elle l'avait perdue, donc Athènes n'aurait fait que changer de maître. En revanche, cette guerre contre Alexandre, peut-être tout aussi douloureuse, n'est pas ne ressembler à celle qui, dans les années 230, est connue sous le nom de guerre démétriaque, les Athéniens ayant une fois encore été entraînés par leur maître macédonien dans un conflit qui n'était pas le leur et où ils devaient subir à nouveau des incursions venues de la mer. Dans Athénée hellénistique, Abiche notait, je cite, que pour la chronologie de la guerre démétriaque, on attend la publication d'un important document attique par Caralambos Kritsas. C'est de cette inscription précisément, un décret pour les cytophylaques, dont la publication maintenant ne saurait plus tarder beaucoup, qu'a bien voulu venir nous entretenir notre hôte athénien au séminaire de tout à l'heure, et je l'en remercie dès maintenant infiniment. Je vous remercie.